parfois déguisé en trader, en agriculteur ou encore en athlète olympique. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé sentir la magie des métiers. En grandissant, j'ai pourtant appris qu'il est difficile de choisir le bon costume qui guidera notre vie professionnelle. C'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de créer MC Talks. Bienvenue dans un univers où je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités au parcours atypique et quelquefois étonnant.
Eh bien écoute, ça va plutôt pas mal en ce moment à Hong Kong. Au niveau du temps, ça va plutôt bien puisqu'on est en été déjà à l'heure actuelle, donc j'ai pas à me plaindre. Après, je vais pas revenir en détail sur les restrictions et la politique qu'il y a actuellement à Hong Kong. C'est un petit peu compliqué, mais c'est un sujet particulier. Donc voilà, mais sinon ça va globalement.
Le moral va quand même bien, parce que hier j'étais sur Instagram, tu sais, j'ai The Economist là qui passait, et je voyais Hong Kong, le nouveau centre de l'épidémie, de la pandémie, et donc je me disais, bah, tiens, ça tombe bien, parce que demain je suis à Hong Kong virtuellement.
Oui, alors pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé, juste vaguement, histoire d'avoir une petite idée, Hong Kong n'a jamais été réellement touché par le Covid. On a eu, les deux dernières années, on avait une dizaine de cas par jour au maximum. Et Omicron est arrivé et ça a changé la donne.
Terrible. Et tu dis que c'est l'été aussi, mais j'ai l'impression que c'est tout le temps l'été. Enfin, il y a la saison des pluies, j'imagine, saison sèche. Ça se passe comment à Hong Kong ?
Alors, en fait, les gens, généralement, pensent que l'Asie, c'est globalement que l'été avec la saison des pluies, la saison sèche. Alors qu'en fait, nous, à Hong Kong, on est plutôt assez haut et donc on a un hiver. Mais on a un hiver qui dure un mois et on va dire que les températures sont plutôt clémentes puisqu'il fait 15 degrés au minimum, quoi.
Oh, c'est un hiver, même mieux que dans le sud de la France, quoi. C'est un hiver tranquille.
Ouais.
Très bien. Pour commencer le podcast, ce que je te propose, c'est une question très simple, c'est qui es-tu ? Et une deuxième question, c'est qu'est-ce que tu fais sur Terre ?
Alors, je m'appelle Bérangère, j'ai 28 ans et je suis actuellement ingénieure spécialisée en chimie et physique. J'ai travaillé dans l'industrie cosmétique, on reviendra un petit peu plus sur mon parcours, mais actuellement, je suis auto-entrepreneur. J'habite à Hong Kong, comme on a vu. Et puis au quotidien, j'essaye d'aider les personnes à trouver leur routine cosmétique matin et soir pour les aider à avoir une plus jolie peau et qu'ils se sentent mieux dans leur peau.
Ah, il faut savoir que tu as fait une vidéo justement sur ton parcours, enfin deux vidéos, il me semble. C'est comme ça que moi, en fait ma copine regarde tout le temps tes vidéos. Donc, à peu près les youtubeurs un peu cosmétiques qui ont une appétence pour la science, je les connais à peu près tous. Et en écoutant, elle m'a envoyé une vidéo de ton parcours et elle m'a dit, il faut vraiment que tu l'écoutes, tu verras, c'est trop cool et il faut que tu la rencontres. Donc, c'est comme ça que je t'ai rencontré. Et j'invite les auditeurs à aller sur ta page YouTube aussi. C'est Pipou Beauty, c'est ça
oui,
la page YouTube
oui.
Allez voir, il y a deux épisodes. Au moins, on va revenir sur son parcours. Mais au moins, ça permettra d'en savoir encore un peu plus si jamais on passe à côté de certaines choses. Voilà. Donc, toi, tu as commencé comment ? Peut-être on va, après le lycée directement, tu fais une prépa, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le parcours après le bac ?
C'est ça. Alors, moi, pour être honnête, j'ai toujours eu des bonnes notes au niveau scolaire. J'aimais bien travailler, j'aimais bien les cours, notamment les cours scientifiques. Donc voilà, je me suis un petit peu dirigée vers ce qu'on attendait de moi, vers entre guillemets la voie royale comme on l'appelle. Donc je me suis dirigée vers une prépa scientifique pour après intégrer une école de chimie et de physique. Donc j'avais vraiment ça en tête au niveau du lycée, d'intégrer une école de chimie, et pour moi l'option, la meilleure option, c'était de faire une prépa scientifique.
D'accord. Et quand tu dis que t'aimais déjà apparemment la cosmétique avant ça,
Oui.
C'est-à-dire, enfin, t'avais des projets à côté ou c'était juste, c'est quoi aimer la cosmétique avant d'aller en prépa ?
Alors, en fait, moi, la plus grande question que j'avais, c'était essayer de décrypter un petit peu la liste des ingrédients qu'il y a derrière les produits. Ça m'a toujours un petit peu stupéfaite de dire, mais qu'est-ce que c'est tout ça ? Qu'est-ce que ça peut bien faire dans une crème ? Puisque le commun des mortels ne comprend pas réellement ce que sont ces ingrédients. Et puis, j'avais aussi une autre problématique, c'est que pendant que j'étais adolescente, j'ai été touchée par l'acné, hein, comme de nombreux adolescents. Donc forcément, tout ça fait que je me suis intéressée à la cosmétique. Et après, au niveau des sciences, en fait, j'ai tout simplement voulu allier deux choses que j'aimais, la cosmétique et les sciences.
Et quand on regarde, ça, les ingrédients dans une crème, comme dans un yaourt ou comme dans beaucoup d'autres choses, il y a le truc qui revient souvent et bon, je pense que je connais ton avis, mais c'est qu'on comprend rien, c'est que c'est pas naturel, c'est que c'est, tu vois, ce genre de truc. Bon, je pense t'avoir déjà entendu sur le sujet, mais est-ce que c'est pas naturel ou c'est quoi tous ces produits qu'on trouve dans des cosmétiques?
Ouais. Alors, la plupart du temps, on entend c'est chimique.
Ouais,
C'est
c'est
la
ça,
phrase qui
c'est le
revient
gros
le plus.
truc. Moi, ça m'énerve parce qu'à chaque fois, c'est. Non, mais moi, mes produits. Là, j'ai pensé à toi. Je me faisais un shampoing ce matin, tu vois. Et sur le paquet, là, du shampoing, il y avait tout. Il y avait bio, naturel, vegan, tous les trucs de la planète. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, tous ces trucs? Je comprends rien. Et en plus, je tourne le paquet et je lis des éléments chimiques dans le. Enfin, pas des éléments chimiques, je ne sais même pas comment on appelle ça, sur le paquet. Et je me dis, bah, en fait, c'est chimique. Alors pourquoi ils me disent que c'est naturel? Donc, juste avoir ton avis
C'est
sur ça.
exactement ça la réponse, c'est qu'en fait tout est chimie, tout est autour de nous, tout est chimie. Nous sommes chimie, nous sommes faits d'eau et de carbone. Enfin voilà, il n'y a pas de tout est chimique. Donc ça veut rien dire chimique versus naturel. C'est pas quelque chose qu'on devrait dire. Et effectivement, les cosmétiques bio, les cosmétiques naturels ont des ingrédients similaires avec les cosmétiques de la convention, les cosmétiques conventionnels. Donc voilà, tu vas retrouver les mêmes ingrédients et les mêmes ingrédients que le commun des mortels ne va pas savoir ce que c'est, ne va pas comprendre.
Exact. Donc toi, tu allais sur Google et tu cherchais un peu tout ce que c'était, essayer de comprendre, alors que t'étais au lycée, quoi.
Bah oui, c'est vrai, mais au niveau du lycée, ça reste un petit peu compliqué à comprendre comme ça directement.
Ouais, j'imagine. Donc là, tu tournes vers la prépa. J'imagine basique, tu travailles beaucoup, t'as pas beaucoup de vie, et t'essaies d'avoir les grandes écoles.
Ouais, c'est un peu ça, hein. Je vais pas édulcorer, je vais pas mentir. La prépa, c'est 2 ou 3 ans assez intenses qui sont directement après le bac, hein, donc les années 18-20 ans. Donc voilà, faut avoir conscience que si tu fais une prépa scientifique, tu vas devoir travailler et qu'il y a certainement des amis à toi qui vont t'inviter à sortir, qui vont faire des fêtes, etc. Et toi, tu pourras pas forcément puisqu'il va falloir travailler parce que c'est beaucoup plus intense que le lycée. Ça demande beaucoup plus de travail et de travail personnel, donc il faut également avoir la motivation. Les gens qui ne sont pas motivés, ça ne sert à rien d'aller en prépa, puisqu'il n'y aura personne derrière pour vous pousser à travailler. Donc c'est vraiment énormément de travail personnel. Et oui, moi, je passais toutes mes soirées et tous mes week-ends à la bibliothèque pour travailler mes cours.
Et t'avais en tête vraiment, je veux une école d'ingénieur pour travailler dans la cosmétique. En fait, t'as jamais changé de cap.
Ben non, c'est ça.
Bravo, c'est bien.
Voilà.
Et t'arrives dans quelle école après les 2 ans de prépa?
Alors moi, j'avais fait le choix de rester dans la ville où je suis née, où j'ai grandi, donc à Bordeaux. Donc j'ai voulu intégrer l'école de Bordeaux, donc l'école de chimie physique de Bordeaux. Donc je suis restée chez moi. Et pour être honnête, c'est parce que je ne me voyais pas partir à cet âge-là. 18-20 ans, je ne me voyais pas partir aller dans une autre ville toute seule et étudier. Voilà, j'étais pas prête. Donc j'ai préféré faire le choix de rester à Bordeaux, de rester auprès des gens que je connais, de la ville que je connais. Voilà.
Et t'as aimé la partie université? C'est ce que tu dis dans ta vidéo quand tu es en école d'ingé. Tu fais un peu tout, j'imagine. Enfin, un peu tout. Tu restes dans l'ingénierie, mais il n'y a pas de spécialité cosmétique dans cette école, non? Enfin, cette
Oui,
université.
c'est ça. Il faut comprendre que la plupart des écoles d'Angers fonctionnent de la même façon. C'est que c'est très, très généraliste. Il n'y a pas vraiment de spécialisation. Moi, ma seule spécialisation, c'était la chimie et la physique. Donc, tous mes cours, c'était de la chimie, de la physique. J'avais également un petit peu d'infos, un petit peu de maths par-ci, par-là. Mais j'ai appris vraiment différentes choses de chimie, différentes choses en physique. J'étais absolument pas spécialisée en cosmétique, de façon en fait à ce que les gens à l'issue de l'école, ils puissent travailler dans énormément de domaines possibles. Hein. Moi, j'ai des anciens d'école qui vont travailler dans le pharmaceutique, dans l'industrie pétrolière. qui vont travailler dans les peintures, dans les cols, dans les cosmétiques, enfin voilà, des milieux qui ont en soi rien à voir. Mais en fait, avec nos connaissances en chimie, en physique et tout ce qu'on a appris au niveau dans notre école aussi, au niveau de l'organisation du travail, de comment travailler, comment faire des recherches, comment trouver des solutions, en fait, ça te forme à faire un petit peu des métiers différents, quoi.
Et toi, dans l'école d'ingénierie, tu vas faire quand même des stages dans le domaine qui te plaît. Peut-être tu peux nous en dire plus sur les stages, mais avant ça, toi qui connais, enfin, je ne sais pas si tu connaissais du monde ou autre, mais tu es nouveau dans le monde professionnel, tu arrives dans une école. Moi, par exemple, je voulais être dans le monde du sport. C'était super compliqué de travailler dans le monde du sport parce que j'étais en école de commerce, c'était très global, enfin très général. Et j'avais beaucoup de mal, à trouver des entreprises dans le sport. Comment toi tu fais pour arriver directement dans ce que tu veux à ton premier stage?
Ouais, alors ça a été très très compliqué, mais effectivement, j'avais pas vraiment le choix en fait, si tu veux. Puisque comme on est dans une école généraliste, si je me spécialise pas avec mes stages, c'est-à-dire que si je choisis mal mes stages, que je les fais pas dans l'industrie cosmétique, clairement, je travaillerai jamais dans l'industrie cosmétique. Ça, c'est sûr, il faut se le mettre dans la tête. Et je vais t'avouer que c'était pas du tout facile, que ça a été des période de stress intense quand il fallait trouver des stages, parce que malheureusement, la cosmétique en France, ça marche beaucoup. Il y a énormément d'industries, d'entreprises françaises, il y a énormément de laboratoires, mais le souci, c'est qu'il y a très, très peu d'offres et beaucoup de demandes. Donc, c'est hyper compliqué de trouver un stage ou de trouver un travail dans ce domaine-là si tu connais personne. Et donc, ça a été vraiment le plus dur, une période qui m'a marquée. Et ce que j'ai fait, ben, comme tout le monde, hein, je pense, comme tous les étudiants, j'ai envoyé je ne sais pas combien d'emails, j'ai invité je ne sais pas combien de personnes sur LinkedIn dans les entreprises dans lesquelles je souhaitais travailler. Voilà, je les ai invités sur LinkedIn, j'ai essayé de leur envoyer des messages, voilà, de trouver aussi les adresses mail pro, puisque ça, c'est une astuce qui revient pas mal. Généralement, toutes les adresses, par exemple, sur l'entreprise L'Oréal, ça va être @loreal.com. Et il suffit juste de trouver le nom de la personne et comment est designée l'adresse mail. Et puis après, tu peux envoyer des mails comme ça à peu près toutes les personnes qui travaillent chez L'Oréal. Et bref, petit à petit, comme ça, ben, j'ai réussi à trouver des stages, mais je t'avoue que ça a été très, très compliqué.
Ah, donc ça a été vraiment juste, tu fonces, t'envoies plein plein de courriels, de messages, et
C'est ça.
Inch'Allah, j'arrive à avoir quelqu'un qui m'accepte. Et t'es un gros stage, parce que ton premier stage, c'est à Paris, et c'est, j'ai oublié le nom, mais c'est connu.
Yves Rocher.
Yves Rocher, ouais, c'est ça. Donc t'as quand même une grosse boîte, c'était cool,
Alors,
non?
celui-là, j'ai eu énormément de chance parce qu'il est un petit peu arrivé au dernier moment et je l'ai eu par mon école, puisque bien évidemment que les écoles ont des partenariats avec différentes entreprises, ont l'habitude d'envoyer certains étudiants dans des entreprises particulières. Et donc là, ça a été une offre qui a été publiée dans mon école. Et donc, j'ai postulé directement à cette offre-là. Je pense qu'on était. On était quelques-uns à postuler et puis ben, c'est moi qui ai eu le stage. Et franchement, ça a été un petit peu du dernier moment et j'ai eu vraiment de la chance.
Et t'as fait quoi pendant le stage?
Stage en recherche et développement, donc dans la partie scientifique. Et je travaillais au laboratoire compatibilité. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, il peut y avoir des interactions entre un contenu et un contenant. Donc en cosmétique, c'est-à-dire des interactions entre la formule cosmétique, le produit et le flacon. Et donc, le but du département compatibilité, c'est de minimiser ces interactions pour qu'il n'y ait pas de souci après sur l'efficacité du produit, qui reste efficace, et aussi pour que le flacon ne se déforme pas, puisque un flacon qui est déformé, ben, le consommateur, il ne va pas acheter derrière.
Et tous les jours, tu fais quoi dans ce genre de métier? Parce que ça paraît simple, c'est juste tu vérifies que ça soit pas que le contenant et le contenu, je sais pas, ils se déforment pas l'un et l'autre. C'est quoi tes
Alors,
journées?
moi, j'avais un projet type. En fait, je devais régler un souci puisqu'il y avait une formule cosmétique qui déformait justement un des flacons. Et mon but, c'était de trouver les causes et de trouver les solutions pour que ça n'arrive plus.
Donc tu fais plein de tests, genre.
Donc, en fait, ouais, c'est ça. Tu regardes la formule cosmétique, tu regardes les ingrédients qui peuvent avoir une incompatibilité avec ton matériau. Tu regardes ton matériau, ce que c'est comme plastique, comme verre, etc. Et de ça, tu fais des tests. Après, tu fais pas mal de recherches biblio. Ensuite, tu fais les tests au laboratoire. Et ensuite, tu conclus sur ben, quel type en fait d'incompatibilité il y avait, quel type d'ingrédients il faut éviter avec ce genre de plastique, etc.
Wow, ok. Ça a l'air fun, ça a l'air cool, comme je dis comme ça.
Les tests de compatibilité sont faits systématiquement pour tous les produits cosmétiques qui sont vendus, puisque c'est très important de vérifier ce paramètre-là.
Et il y a quoi comme, comment dire, comme truc obligatoire avant qu'un cosmétique sorte, je sais pas, en France, par exemple? Genre les trucs vraiment où on peut pas négocier sur ça, quoi.
Il y en a beaucoup. Alors, le plus important, en fait, c'est que si on veut mettre un produit cosmétique en vente sur le marché en Europe, il faut faire ce qu'on appelle un dossier information produit. Dans ce dossier information produit, si tu veux, ça va être l'ADN de ton produit cosmétique. On va retrouver toutes les informations, c'est-à-dire la formule avec les ingrédients qui sont utilisés, leur pourcentage, mais également le fournisseur de cet ingrédient-là. Toutes les fiches techniques, toutes les fiches scientifiques, toutes les fiches toxicologiques de cet ingrédient-là. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est les bonnes pratiques de fabrication de l'usine, du fabricant, donc toutes les normes ISO qui sont respectées par l'usine, ce qui est obligatoire. Et ensuite, on va retrouver tous les tests qui sont eux aussi obligatoires, c'est-à-dire les tests d'irritation. Test d'irritation cutanée, test d'irritation oculaire. Donc, tous les produits qui sont vendus sur le marché, ils ont passé ces tests d'irritation. Donc, en soi, ils ne sont pas irritants pour une majorité de personnes. Ensuite, on a ce qu'on appelle le challenge test. Donc, c'est le test pour vérifier que le système de conservation, il fonctionne bien dans le produit. Donc, puisque dans un produit cosmétique, on va forcément mettre des conservateurs. Et on va vérifier en fait que ces conservateurs ils fonctionnent bien pour pas qu'il y ait le développement de micro-organismes, de bactéries, de champignons, etc. Et ensuite, on a des tests de stabilité et les tests de compatibilité. Donc, les tests de compatibilité, on en a parlé. Et les tests de stabilité, c'est en fait vérifier que le produit cosmétique reste le même durant la durée de vie d'utilisation du produit. Donc, généralement, on vérifie qu'il va rester stable sur 3 ans. Puisqu'en fait, il faut savoir que la plupart des crèmes, des émulsions, ce sont des choses qui sont par définition instables. Et nous, le but d'un formulateur, c'est de les rendre stables pendant une période de temps, donc pour un cosmétique au minimum 3 ans, et de façon à ce que le produit puisse être utilisé sans souci par le consommateur.
Ouais, c'est du sérieux, quoi. Et qui vérifie tout ça? Parce que les tests sont faits, etc. Mais après, à qui on les envoie?
Oui, alors tous les tests, tout ce qui est tests d'irritation, tests toxicologiques, etc., ils sont validés par un dermatologue et validés par un toxicologue. Donc ça, on doit les faire valider. Et ensuite, le dossier information produit, si tu veux, il est uniquement pour l'entreprise qui met en vente sur le marché des cosmétiques le produit. Et ensuite, c'est l'Agence de sécurité nationale qui peut à tout moment donné toquer à ta porte et te dire, est-ce que vous avez le dossier information produit de ce produit qui est mis en vente? Si tu l'as pas, forcément, tu vas avoir des conséquences derrière. Et si tu l'as, ben, tant mieux.
Ok. Et tu dis donc, il y a un toxicologue, un dermatologue, c'est ça, qui vérifie que tout est correct. Ils sont extérieurs à l'entreprise, j'imagine. Parce que sinon, on peut avoir des conflits d'intérêts clairs sur la sortie du produit.
C'est ça. Enfin, le toxicologue peut être au sein de l'entreprise. Ça arrive. Alors moi, dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, c'était des tests qui étaient externalisés. Donc on les envoie à un sous-traitant parce que on n'a absolument pas la possibilité de faire des tests microbio, etc. C'est un autre domaine totalement. Mais il y a des marques qui ont leur toxicologue. Par contre, il faut savoir que quand un toxicologue il valide une formule cosmétique, c'est son métier qui est en jeu. Si jamais après, derrière, il y a un souci, eh bien, il travaillera plus en tant que toxicologue.
Ok. Ouais, donc c'est quand même assez sérieux quoi quand ça sort. Et il y a aussi un autre truc, je te disais qu'il y avait écrit vegan sur mon shampoing. Peut-être tu peux confirmer, mais en Europe, on n'a pas le droit de faire des tests sur des animaux avant la sortie d'un produit cosmétique, je crois. Genre pour toutes les marques, pour tout le monde.
Oui, alors ça, c'est pas mal de choses qui sont un petit peu trompeurs, qui sont un petit peu marketing. Pour bien comprendre, il faut savoir que les cosmétiques, ils ne sont plus testés sur les animaux depuis pas mal d'années déjà. Il me semble que c'est 2013-2014. Et
D'accord.
même les matières premières ne sont pas non plus testées sur les animaux. Donc ça, c'est fini.
Ah, donc le produit n'est pas testé sur les animaux, mais en plus tout ce qui fait le produit n'est pas non plus testé, quand bien même ça vient de n'importe où dans le monde, c'est ça? Peu importe.
C'est ça. En Europe, il faut que ça soit non testé sur les animaux. Après, au niveau du terme vegan, en fait, ce terme vegan, il n'indique pas du tout les tests sur les animaux. Il va juste indiquer qu'il n'y a pas de matière première animale, d'origine animale, dans ton produit.
D'accord, et ça
Donc,
par contre, ça peut arriver.
les gens confondent les deux, quoi.
Ouais, j'ai confondu. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des. Ça peut quand même arriver qu'il y ait des matières premières qui viennent d'animal, qui
Oui,
soient de provenance
absolument.
animale?
Alors, ça reste quand même très rare hein, parce qu'on en utilise très peu, mais on utilise par exemple la cire d'abeille ou le miel, tout simplement.
Ok, bah, désolé pour. Je suis sorti de ton parcours complètement en rebondissant sur ce que tu me disais. Si on reprend sur ton parcours, donc tu fais Yves Rocher. Et après, tu fais un autre stage qui a l'air aussi trop cool, parce que tu fais vraiment tout le parcours de la cosmétique jusqu'à sa sortie, non? Si j'ai bien compris, tu
Oui,
fais tout.
bah oui, là j'étais plutôt dans les tests de fin de produit une fois que tu as le formule, que tu as la formule une fois que tu as le flacon. Et ensuite, j'ai fait un autre stage en formulation. Donc là, c'est vraiment faire le produit en lui-même. Hein, c'est-à-dire que typiquement, on vient te voir et on te dit bon, bah, je veux une crème anti-âge. Et moi, mon but, c'était bon, comment on va faire une crème anti-âge? Eh bien, on va prendre tel ingrédient à tel pourcentage. Tu fais ta formule théorique sur le papier et ensuite tu vas faire les essais au laboratoire, donc avec les matières premières que tu as. Tu fais ta crème et ensuite ben, tu reviens au stade des tests. Tu fais les tests de stabilité, tests de compatibilité pour vérifier que ça fonctionne bien. Et c'est vraiment comme une recette de cuisine. Il faut vraiment le voir comme une recette de cuisine. C'est que j'ai des ingrédients, je sais à peu près comment faire une crème anti-âge, hein, de la même façon qu'une personne va savoir à peu près comment faire un gâteau, il va falloir de la farine, des œufs, etc. Donc, dans ma tête, en tout cas, j'ai les canevas de formule. Et après, il faut juste adapter en fonction de la demande, si on veut une crème anti-âge, une crème hydratante, etc. Je fais également beaucoup de sourcing au niveau des matières premières, puisque ça évolue, c'est un secteur qui évolue énormément et qui évolue très, très vite. Donc, il faut toujours savoir les nouvelles matières premières qui existent. Donc, voilà, pour ça, tu as des fournisseurs de matières premières. Donc, tu es fréquemment en contact avec eux pour savoir ce qu'ils ont à te proposer comme nouveauté. Et puis, voilà, de petit à petit, tu fais ta petite formule cosmétique, tu la testes et voilà.
Et je t'imagine seule dans ton bureau avec plein de matières premières. Est-ce que c'est ça ou comment
Mais
ça
c'est
se
un peu
passe ouais,
ça.
tous les jours?
C'est
Ouais.
un peu ça parce que bah, alors chez Yves Rocher, forcément, c'est une plus grande structure, donc c'est différent puisqu'il y a plein de personnes qui vont être spécialisées dans un domaine en particulier. Moi, le deuxième stage que j'ai fait en formulation, c'était une start-up. Hein, donc en fait, on était deux au laboratoire. Voilà. Et il y avait une apprentie et il y avait moi en tant que stagiaire.
Ah oui, effectivement,
Voilà.
une apprentie, une stagiaire.
Voilà. Donc, on faisait littéralement tout.
D'accord. Et aussi, question bête, mais quand on te dit juste une crème anti-âge, il y a plein de façons de faire une crème anti-âge. Il y a plein de crèmes anti-âge dans toutes les marques, elles sont toutes différentes. Donc, comment tu choisis l'une plutôt que l'autre? Toi, tu dois le créer, comment tu fais?
J'ai envie de te dire, la base d'une crème, ça reste la même, hein, c'est-à-dire que tu vas avoir une phase aqueuse, forcément, et tu vas avoir une phase huileuse. Ta phase huileuse, tu vas la déterminer en fonction de si tu veux une crème plutôt riche, une crème plutôt légère. Tu vas choisir tes ingrédients comme ça. Si tu vas préférer certaines huiles végétales, par exemple, des huiles végétales plus riches ou des huiles végétales plus légères. Et ensuite, tu vas tout simplement mettre des émulsifiants. Les émulsifiants, ils vont te permettre de créer une émulsion, c'est-à-dire de faire en sorte que ta phase aqueuse et ta phase huileuse puissent former une phase homogène, hein, puisque tout le monde sait que l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Et nous, il faut qu'on fasse un mélange qui est homogène à l'œil nu. Et donc, pour cela, on utilise des émulsifiants. Donc, ça, c'est typiquement une crème. Et ensuite, on va rajouter ben, les actifs, forcément, les actifs anti-âge, les actifs apaisants si on veut apaiser la peau, les actifs anti-rougeur, etc., avec du parfum éventuellement et des conservateurs.
D'accord. Et comment tu différencies plusieurs crèmes anti-âge? Est-ce que c'est surtout du marketing ou est-ce que c'est vraiment il y a vraiment des trucs différents à l'intérieur?
Alors, il y a les deux. Il y a vraiment, vraiment du marketing et il y a également des ingrédients qui sont différents.
D'accord. Donc là c'est ton deuxième stage où tu fais tout, t'es en start-up, tu crées un peu une crème anti-âge, je sais pas ce que tu crées. Et après j'ai oublié ce que tu as fait.
Et bien après, c'était mon diplôme. Hein. J'ai
C'est le diplôme,
passé
voilà.
ma dernière soutenance. J'ai eu mon diplôme et puis après, tu es sur le marché de l'emploi.
Et là, tu trouves rapidement un emploi, tu travailles pour qui?
Alors, j'ai mis, il me semble, un mois, 2 mois à trouver un emploi. Donc,
D'accord. Oh,
ça
plutôt rapide,
va.
ça va.
Pas trop long, ouais, c'est pas trop long, ça va. Et j'ai travaillé pour les laboratoires Sicobel. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est ceux qui ont les marques Bcom Bio, Placenta Végétal. Et j'étais toujours au laboratoire. Donc, toujours en train de faire les formules, de faire les essais, de les faire les essais au laboratoire, les tests de stabilité, les tests de compatibilité, etc.
Donc là, parcours en fait, ou depuis lycée, tout droit, quoi. Droit au but, t'as atteint ce
C'est
que tu
un
voulais.
peu ça. C'est après que ça a
C'est
dérivé.
après, ça part en cacahuète. C'est plus à Lyon que tu veux
Ouais.
aller. Tu restes combien de temps dans ce job?
Je crois que j'y reste 6 mois, j'y reste pas longtemps. C'était un
Oui, c'est
CDD.
rapide. D'accord.
Donc, je ne suis pas restée longtemps. Et puis, de toute façon, après, je voulais monter à Paris, puisque là, j'étais à Lyon. Je voulais monter à Paris tout simplement pour rejoindre mon copain qui travaillait à Paris. Et du coup, bah, j'ai arrêté mon emploi à Lyon, mon CDD s'est terminé, et donc du coup, j'ai dû retrouver un emploi à Paris. Cette fois-ci, je crois que j'ai mis, pareil, 2, 3 mois à trouver un autre emploi, et donc j'ai déménagé à Paris.
D'accord. Et là, tu travailles pour qui? Tu fais quoi? Pareil, toujours pareil, et pour une autre entreprise?
Bah alors, cela, c'était différent, puisqu'en fait, je m'occupais des produits cosmétiques dans les hôtels, donc en fait, ce qu'on appelle
Ah
des
oui.
amenities. Donc, tout ce qui est disponible, entre guillemets, gratuitement, le gel douche, le shampoing, le lait corps, etc. Et donc là, c'était différent parce que tu travailles en fait en collaboration avec certaines marques. Pour reprendre l'exemple de L'Oréal, en fait, on va imaginer que L'Oréal a envie d'être dans un hôtel en particulier, a envie que ses produits cosmétiques soient dans un hôtel, généralement un hôtel assez réputé. Eh bien, on va se mettre en collaboration avec eux pour voir ce qu'on peut faire au niveau des formules cosmétiques, si on les change, si on les change pas, quels flacons on peut choisir, etc. Et j'ai travaillé également sur une ligne de cosmétiques bio à petit prix.
D'accord. C'est quoi de la cosmétique bio?
Alors, pour faire de la cosmétique bio, il faut en fait être certifié par un organisme de certification bio. En l'occurrence, en France, généralement, c'est Ecocert. Et il faut suivre en fait la charte, une charte de cosmétique bio, et tu dois respecter certains pourcentages. Par exemple, avoir au minimum 20% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Tu as également des ingrédients qui sont interdits en cosmétique bio. Donc voilà, tu as une charte à respecter au niveau de la formulation de tes produits.
D'accord. Et c'est quoi on va dire, les grandes tendances, les grandes différences avec ce qui n'est pas bio? Parce que j'ai toujours du mal à comprendre ce que c'est que bio, c'est quoi ces réglementations, qu'il y a des trucs à respecter, mais c'est quoi exactement?
Alors en fait, tu as 3 types de cosmétiques. Tu as la cosmétique conventionnelle qui peut utiliser tous les ingrédients qui sont autorisés par la réglementation européenne, tout simplement. Tu as la cosmétique naturelle qui va se focaliser sur des ingrédients d'origine naturelle spécifiquement. Et pour être cosmétique naturelle certifiée, il faut avoir un pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle au minimum. Et ensuite, à la cosmétique biologique. Et là, il faut avoir un pourcentage minimum d'ingrédients d'origine issus de l'agriculture biologique.
Ouais.
Ça,
Et
les 3 grandes cosmétiques.
quand tu dis cosmétiques naturels aussi, donc c'est des produits pas transformés, c'est ça, j'imagine? À la base, des produits bruts qu'on prend et c'est
Alors,
ça?
ça peut être des produits transformés, puisque en fait, c'est ça qui généralement peut émettre peut induire en erreur
Ouais.
le consommateur, c'est que dans la plupart des ingrédients qu'on utilise en cosmétique, enfin une grande majorité, les plus grands ingrédients qu'on utilise en cosmétique vont être d'origine naturelle. Par exemple, si on reprend l'exemple de ton shampoing, il va te nettoyer les cheveux puisqu'il contient des tensioactifs, et les tensioactifs en cosmétique, qu'on soit en cosmétique conventionnelle, naturelle ou bio, ça va typiquement être les mêmes puisque ce sont des tensioactifs issus de coco ou de choses comme ça, donc issus de ressources naturelles. Voilà, donc c'est ça que en fait, les consommateurs ne savent pas, c'est que beaucoup d'ingrédients sont en fait d'origine naturelle, et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on voit beaucoup de marques qui, pour vendre un produit cosmétique, vont afficher le pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle. Mais en soi, c'est hyper facile d'avoir un haut pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle, mais vraiment.
Alors pourquoi toutes les marques elles disent pas bah c'est naturel? Parce que de toute façon c'est le cas pour tout le monde donc enfin presque.
Ouais, mais c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a des organismes, des chartes que tu dois respecter si tu veux être naturel ou pas. Et il y a une petite bataille marketing autour de ça. Et voilà, tu dois quand même respecter certaines normes et certaines règles.
D'accord. Et là, pour reprendre donc à ton expérience, tu fais les petits flacons pour les hôtels. Ça te plaît ou je sais pas, vu que c'est pour les hôtels, je dois faire tout petit ou t'es quand même, je pense, vite, ça s'est renfermé quoi. Est-ce que ça te plaît quand même ou pas?
Ouais, le problème des cosmétiques pour les hôtels, c'est que ça doit être à bas coût, mais très, très, très bas coût. Mais vraiment le
C'est
moins
gratuit.
cher que tu
Ouais, c'est de la pub
peux faire. Donc,
quoi.
typiquement, c'est beaucoup d'eau. Et puis après, on met les ingrédients les moins chers. Voilà.
Ok, très sympa.
Effectivement, d'un point de vue formulation, puisque moi, je faisais principalement de la formulation, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. C'est pour cela que ben, 6 mois après, 9 mois après, je ne sais plus exactement, je suis partie et j'ai déménagé de Paris pour aller à Hong Kong.
D'accord, donc tu as travaillé 6 non, ouais, c'est 4 6 mois à Lyon, suite 9 mois à Paris et là bye bye, tu pars à Hong Kong. Donc là, c'est un gros changement quand même, parce que moi, je me rappelle qu'à 20 ans, tu disais ne pas vouloir partir de Bordeaux, parce que tu n'étais pas prête. Et là, tu te retrouves à partir à Hong Kong. Je ne connais pas Hong Kong, hein, jamais visité, mais j'imagine une culture extrêmement différente, radicalement différente de la France. Pourquoi ce choix d'abord? Et comment ça se passe, les premiers pas, à Hong Kong?
Alors, j'ai fait ce choix. Ben, en fait, c'est pas vraiment moi qui l'ai fait. En fait, mon copain a une opportunité incroyable à Hong Kong pour sa carrière. Moi, étant donné que ma carrière, bon, mon travail me plaisait, mais ce n'était pas non plus le travail de mes rêves, j'avais aucun problème à partir. Et pour le coup, là, j'avais vraiment envie de partir et de quitter la France pour découvrir autre chose, puisque c'était vraiment le moment ou jamais. Tu te dis, on est encore jeune. On n'a pas d'enfants, on n'a pas de... Voilà, donc on peut partir comme on veut, donc on tente, on y va. On était deux, donc forcément c'est beaucoup plus facile que de partir tout seul. Donc ouais, on a déménagé à Hong Kong et effectivement c'est une culture totalement différente. Mais en soi, on retrouve quand même, puisque en fait, pour bien comprendre, Hong Kong c'est une région semi-autonome de Chine et Hong Kong c'est une ancienne colonie britannique. Donc, c'est très, très occidentalisé. Donc, en fait, on s'y retrouve quand même.
D'accord. Et les premiers pas, ça se passe comment? Contente d'arriver, pas trop de stress, pas trop de regrets?
Au début, tu as forcément l'excitation, du voyage, puisque tu arrives dans une ville où j'avais jamais mis les pieds, donc je ne savais même pas à quoi ça ressemblait. Donc, ouais, tu découvres un peu, c'est un petit peu entre guillemets les vacances. Tu comprends pas encore très bien que tu vas t'installer, vivre ici, tu vois. Et puis petit à petit, on s'installe. Forcément, le début, il est pas facile parce que tu dois prendre tes repères. Au niveau de la culture, ouais, mais aussi au niveau bah, de la nourriture, tout simplement, hein. Dans les supermarchés, il n'y a pas les mêmes ingrédients qu'il y a chez nous. Donc, tu dois retrouver un petit peu tes marques. Et puis, ça se fait petit à petit. Et puis, après est venue la question de, bon, maintenant que je suis à Hong Kong, maintenant que je suis installée, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire?
Fini les vacances, il va falloir gagner un peu d'argent pour se
Voilà.
loger. En plus, c'est cher Hong Kong, non? Je sais pas, j'ai mis une ville super chère.
C'est hyper cher. C'est l'une des villes les plus chères. Bon. Ça dépend des classements que tu regardes. Parfois, c'est numéro 1, parfois, c'est numéro 3, mais globalement,
C'est le
c'est
top, quoi.
toujours dans le top 10 des villes
Ouais.
les plus chères au monde. Ouais.
Ouais, donc il faut que tu trouves un truc et c'est là où tu disais que au final, la France, c'est là où il y a beaucoup de cosmétiques et Hong Kong. Il y a plus de matières premières, enfin, non, de business, tu disais, de marketing, il n'y a pas vraiment de production de cosmétiques. Donc là,
Ouais,
gros
c'est
coup de
ça.
stress, j'imagine.
En fait, Hong Kong, c'est pas du tout sur le côté scientifique, il n'y a vraiment pas de boulot. C'est vraiment que du côté business, marketing, etc. Alors là, il y a toutes les entreprises, hein, il y a tout LVMH, L'Oréal, ils sont tous là pour gérer la région Asie, justement, hein, puisque Hong Kong, c'est quand même la ville de l'Asie avec toutes les entreprises étrangères. Et donc voilà, donc moi, je me suis retrouvée un petit peu coincée. Alors, je savais pertinemment en partant à Hong Kong que j'allais avoir ce problème, hein, j'en étais bien consciente, mais je voulais aussi prendre cette opportunité pour pourquoi pas faire quelque chose d'autre. Et donc au début, je suis quand même restée sur, je recherche un travail sur la partie scientifique. Et après avoir parlé à deux, trois recruteurs, ils m'ont clairement dit que j'allais m'ennuyer parce que ce serait pas du tout la même chose que je faisais à Paris, beaucoup plus ennuyant comme travail. Donc j'ai réfléchi et puis en fait c'est venu mais au cours d'un déjeuner en fait avec une amie qui me dit vas-y, j'ai envie de monter une entreprise à Hong Kong. Elle travaillait, mais bon, pas forcément un travail qui lui plaisait non plus. Et puis on s'est dit autour de la discussion, vas-y, on fait un truc, on va faire une entreprise.
Wow, c'est intense là quand même. Parce que
Ouais.
on rappelle que tu as fait une école d'ingénierie, que tu étais dans les bureaux en train de faire de la magie avec des matières premières, et là tu veux créer une boîte, c'est plus du tout les mêmes compétences.
Ah ouais, c'est plus du tout la même chose. Et comme je suis quelqu'un de très, très studieux depuis toujours, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait des cours en ligne. Donc, je suis allée sur Coursera et j'ai suivi les cours en ligne de l'entrepreneuriat de l'Université de Pennsylvanie. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai appris un petit peu avoir les compétences de la gestion de l'entrepreneuriat, tout simplement. Et puis après, dans tous les cas, il n'y a pas de secret, il faut se lancer, hein.
Et c'est facile de s'inscrire à ça, à ces cours? Enfin, c'est juste tu payes des
Ouais,
fees.
il faut payer, mais sinon c'est hyper facile. Il faut bien évidemment comprendre l'anglais si tu prends une université étrangère, mais sinon c'est hyper facile, c'est hyper cool. Le format, franchement, est super. C'est des petites vidéos, et puis après, tu as des petits questionnaires, et forcément, pour avoir ton examen, il faut que tu répondes assez juste. Et puis voilà.
Et l'anglais, tu l'as appris où? Parce que tu es resté en France tout le long. J'ai l'impression que tu parles super bien anglais alors que tu arrives à Hong Kong et c'est nouveau pour toi.
Alors l'anglais, ben, comme tout le monde, je l'ai appris à l'école, mais c'était un petit peu ma bête noire. Voilà, pour pas mentir, c'était une des matières premières. Les langues étrangères, c'était pas mes matières premières préférées. J'avais un petit peu de mal. Enfin, comme je travaillais, j'avais toujours quand même des bonnes notes, etc. Mais parler, c'est différent. Et je t'avoue que je suis arrivée à Hong Kong. Je parlais anglais, mais je parlais anglais un niveau très, très basique. Donc, j'arrivais quand même à me faire comprendre et je comprenais quand même, je comprenais beaucoup mieux que ce que j'arrivais à parler. Et puis, en fait, t'apprends tout simplement petit à petit, quoi.
Très bien, ouais, bah tu gères, hein, t'as quand même eu un diplôme d'une école américaine sans savoir parler anglais, c'est pas mal.
Non, mais c'est vrai qu'au niveau de la compréhension, par contre, ben, en fait, étant donné que je regardais depuis pas mal d'années les séries en anglais, avec les sous-titres français, t'as quand même un certain vocabulaire que t'acquiers au cours du temps, quoi. Donc ça facilite.
Un bon conseil, ça, regarder les séries en VO, ça aide vraiment beaucoup. Dès la plus tendre enfance, se mettre tout en VO. J'étais au Portugal là il y a un mois et j'étais étonné qu'ils parlent vraiment bien anglais, les gens. Mais partout, à toutes les classes de la société, j'ai l'impression l'anglais était très facile pour eux. Et j'ai appris que, je sais pas si c'est un lien de causalité, mais ils ont tout en anglais. Le cinéma est en anglais, c'est en VO toujours. Et peut-être ça aide à parler mieux anglais, sûrement, je sais pas.
Ouais, ben généralement, c'est ce que tous les étrangers disent. Tous les étrangers que j'ai rencontrés, par exemple, de l'Europe de l'Est, etc., ils n'ont absolument pas de doublage. C'est-à-dire que même les dessins animés à l'enfance, tu les regardes en VO avec les sous-titres dans ta langue. Donc, forcément, quand depuis toujours, tu entends l'anglais au quotidien, ben, tu comprends beaucoup mieux après par la suite.
Ton oreille s'habitue. Et donc tu fais tes cours en anglais et là tu dois lancer une boîte quand même maintenant.
Ouais.
Comment ça se passe?
Mais écoute, comme je t'ai dit, il faut juste se lancer. Forcément qu'il va y avoir des obstacles. Moi, je ne vais pas te mentir, j'aurais pu mieux faire. Il y a des choses que je n'avais pas pensées. Forcément, tu ne peux pas penser à tout, surtout quand c'est la première et surtout quand tu n'as pas fait d'école derrière qui t'explique un petit peu quoi faire pour monter ton entreprise. Donc, j'ai fait des erreurs. Euh,
Parcours.
ça n'a pas été facile. Ben, en fait, si tu veux, à Hong Kong, il n'y a pas le statut auto-entrepreneur comme il y a en France. Là, tu peux directement faire une entreprise à statut juridique limité, là, comme on dit en France,
SARL, non,
un truc comme ça.
SARL,
Ouais,
société à
c'est ça.
responsabilité limitée, je crois, je sais pas,
C'est
je crois.
ça. Voilà. Et du coup, moi, j'ai commencé par créer ça. Et le souci, c'est qu'à Hong Kong, ça te revient quand même assez cher, la création. Parce qu'après, tu as un audit obligatoire. Donc, il faut payer l'auditeur, il faut payer le comptable. Et il y a des frais. En fait, si tu veux, il y a une particularité aussi, c'est qu'à Hong Kong, tu ne peux pas mettre ton lieu de résidence comme lieu de ton entreprise. Donc moi, typiquement, mon appartement, ça ne pouvait pas être le lieu de mon entreprise. Donc en fait, tu dois payer quelqu'un ou un bureau en fait qui s'occupe de
Local.
la création d'entreprise, voilà, pour avoir une adresse d'entreprise à Hong Kong. Donc bref, tout cela, ça a beaucoup de frais. Et donc voilà, au final, je me dis que j'aurais pu mieux choisir hein, parce que clairement, la première année, je n'ai pas fait d'argent. Mais bon, en même temps, toutes les entreprises qui se créent ne font pas forcément d'argent la première année ni la deuxième. Donc voilà, donc j'ai perdu énormément d'argent. Surtout que, comme je le disais dans ma vidéo, en fait, la première entreprise que j'ai créée, c'était une boutique en ligne de cosmétiques coréens, de cosmétiques asiatiques. Étant donné que j'étais en Asie, c'était la plus logique, la chose la plus logique à faire. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, y a eu le Covid. Et ça a impacté les livraisons, mais beaucoup, puisque là, à l'heure actuelle, à Hong Kong, je ne peux toujours pas envoyer de courrier vers la France, par exemple. Donc là, le business s'effondre, hein, clairement. Hein, il n'y a pas de solution. Hein. Si tu veux passer par un transporteur privé, les prix, j'ai même pas envie de te les dire, tellement c'est choquant.
Ah, tu payes ton
Donc,
masque très très cher en tant que
ouais.
consommateur.
Voilà, donc forcément, bah, quand tu as toute la création de ton entreprise qui t'a coûté pas mal d'argent, que après bah, ton business s'arrête du jour au lendemain, puisqu'il y a un virus qui est arrivé voilà, et qui a tout chamboulé, ouais, là je t'avoue que c'était pas forcément facile, facile.
Et comment, ouais, tu te dis pas, je rentre en France, j'arrête tout. Enfin, même si t'as ton copain qui est là-bas, tu te dis pas, ouais, c'est bon, j'en ai marre, dépression, bye, je plaque tout, je rentre chez moi.
Mais alors là, vraiment, pour être très honnête, c'est vrai que j'étais à une période de ma vie qui n'a pas du tout été facile, énormément de stress. Je dormais très peu, j'arrivais à dormir très peu. Et en fait, ce qui me motivait, c'est que ça a commencé par une boutique en ligne de cosmétiques asiatiques. Et en fait, ça en a dérivé à moi qui a un compte Instagram et une chaîne YouTube et qui parle de la cosmétique en général. Donc en fait, j'ai su rebondir. Et faire quelque chose de nouveau à partir de ce que j'avais créé. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je regrette absolument pas ma première création d'entreprise qui s'est vouée par un échec, puisqu'en fait, c'est ce qui m'a amené à l'heure d'aujourd'hui là où j'en suis.
Et comment tu penses à ce que tu as déjà des réseaux sociaux pour communiquer sur ton entreprise à la base, il me semble. Mais comment t'en viens à je vais devenir je vais carrément créer du contenu et je vais devenir créatrice de contenu moi-même.
Alors, à la base, c'était, comme tu l'as dit, j'avais uniquement un compte Instagram pour montrer ma boutique en ligne. Et puis, en traînant tout simplement sur Instagram, je voyais un petit peu de fausses informations sur la cosmétique, de choses qui pouvaient un petit peu m'agacer. Et étant du milieu, je me suis dit, bah, attends, j'ai énormément d'informations en fait à partager au monde, à partager aux personnes. Et du coup, j'ai commencé mon compte Instagram à le faire. À créer du contenu de façon un petit peu plus générale et pas uniquement sur ma boutique en ligne, de façon à attirer de nouvelles personnes. Et puis par derrière, bien évidemment, j'avais toujours en tête, ben, plus j'attire de personnes, plus il y a de personnes qui vont pouvoir acheter sur ma boutique en ligne à l'époque. Donc voilà, ça avait du sens. Et puis, de fil en aiguille, alors ce n'était pas ma première idée, ce n'était pas mon idée à moi, c'était l'idée de mon copain, en fait, de créer ma chaîne YouTube. Alors, j'y suis un petit peu allée à reculons parce que parler devant une caméra, on peut se dire que c'est facile, mais ça l'est pas du tout. Ça l'est vraiment pas du tout. Surtout pour certaines personnes en particulier, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont de nature très, très ouverte et qui parlent beaucoup, etc. Et moi, je t'avoue que j'avais un petit peu le stress. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui aime se montrer beaucoup, qui aime beaucoup parler. Quand je suis dans un groupe de personnes, je ne vais pas être la personne qui va monopoliser la parole. Je vais plutôt être dans mon coin. Et donc, créer ma chaîne YouTube, au début, j'étais un petit peu hésitante. Et puis, je me suis lancée parce que, comme je le dis, dans la vie, il faut se lancer. Parfois, il ne faut pas trop réfléchir, il faut y aller. Et puis, ça a marché, en fait.
Mais ça a marché. Parce que, alors, tes premières vidéos, j'ai regardé une des premières vidéos, la deuxième vidéo, il y avait une magnifique vue sur Hong Kong d'ailleurs. Je crois que tu es face à une baie vitrée. Mais dans un moment de stress, de déprime, se lancer sur YouTube, je trouve ça très, très audacieux. Parce que la création de contenu au-delà de YouTube, la création de contenu globalement, je trouve ça extrêmement anxiogène et très stressant. Parce que tu mises quand même sur un algorithme, tu as des abonnés qui sont. Enfin, le but, c'est Tu te dis pas, je veux plein d'abonnés, mais bon, c'est comme la récompense de ton travail d'avoir le nombre d'abonnés qui augmente. Et parfois, c'est frustrant parce que t'as pas ça. T'as des gens qui regardent ta vidéo en 2 secondes, alors que toi, t'as passé 10 heures à faire des recherches, à documenter. C'est pas un stress en plus que tu te rajoutes en faisant ça?
Si, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux ne se sont pas forcément passés exactement au même moment. Ma chaîne YouTube, j'avais commencé un petit peu avant à la créer, mais elle décollait pas. J'étais au tout début, aux prémices, et c'était pendant que j'étais en train de développer ma chaîne YouTube qu'il y a eu le Covid, etc. Et donc voilà, donc ça s'est pas exactement passé au même moment, mais oui, je te rejoins. Ce qu'il y a de plus dur dans la création de contenu, c'est de mettre tout ton cœur dans créer un contenu qui est très informatif, hein, puisque moi je fais de la vulgarisation scientifique, donc ça demande des recherches, ça demande de faire quelque chose de joli, de propre, avec des études derrière, hein, pour que ce soit carré au niveau scientifique, et que derrière, t'as personne qui aime, t'as personne qui regarde ta vidéo, c'est frustrant, c'est dur. Et donc, ouais, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui n'arriveront pas, puisque ben forcément, quand tu te lances, tu as zéro abonné partout. Hein. Tu as zéro abonné sur Instagram, tu as zéro abonné sur YouTube. Et puis, ça va rester généralement un petit peu comme ça pendant un certain moment, puisque YouTube, pour qu'il te remarque, il va falloir du boulot. Voilà. Et en fait, moi, j'ai quand même eu de la chance, c'est que à côté, mon copain m'a toujours soutenue et m'a toujours soutenue également financièrement. Donc, j'ai jamais eu de problème d'argent. Donc, c'est ça qui a fait aujourd'hui que j'ai pu en arriver là où j'en suis. Clairement, si j'étais toute seule et que j'avais un loyer à payer, j'aurais jamais pu.
Est-ce que tu aurais fait un truc pour gagner de l'argent le plus vite possible, j'imagine,
C'est
et
ça.
pas. C'est
C'est
cool que
ça.
t'aies quelqu'un pour t'accompagner. Et quand tu lances ta chaîne YouTube et peut-être Instagram en même temps, est-ce que tu as déjà une idée de comment tu vas te faire payer dans les prochains mois ou les prochaines années? Ou non, c'est vraiment j'aime ça, je me lance et encore une fois,
Ah,
Inch'Allah, 2 fois je le dis, on
totalement.
verra.
C'est totalement ça. C'est je me lance, je tente ma chance et puis on verra bien ce qui se passera.
Wow, ok, bravo. Bah, c'est vraiment dur. Hein. Je crois que les gens ne se rendent pas compte du travail que c'est derrière, de l'audace qu'il faut avoir, de la pression, du up and down en termes de morale. Mais pareil avec moi, c'est les podcasts, mais tu vois, quand tu lances tu as travaillé beaucoup sur un podcast ou une newsletter que tu envoies tous les dimanches, comme c'est mon cas, et que tu vois que tu as 10 personnes qui se désabonnent, tu dis, mais non, c'est pas possible, après tout ce travail, ils ne pouvaient pas me faire ça. Donc, ouais, c'est compliqué. Bon, bravo, bravo pour ça. Et. Par rapport à ça, donc ça fait 2 ans la première vidéo. Ça fait combien de temps que tu as commencé juste People
Ouais, c'est
Beauty?
ça fait 2 ans, je crois que ça fait 2 ans et 3 mois, là, quelque chose comme ça.
Et au bout de combien de temps tu commences à avoir des marques qui s'intéressent à toi, ou tu commences à avoir un intérêt autour de ton travail?
Je pense que ça a mis 5 6 mois pour avoir le premier message de marque, on a envie de t'envoyer ce produit gratuit, etc. Voilà, uniquement des produits gratuits, je pense que ça a mis 5 6 mois. Et après, au niveau de YouTube, j'ai commencé à gagner des sous avec mes chaînes YouTube. C'était en septembre-octobre et j'avais créé ma chaîne en janvier.
C'est rapide quand même, 6 mois, enfin plus, un peu plus, 8 mois pour déjà être payé par YouTube et avoir des partenariats, c'est quand même. C'est rapide.
C'est ouais, moi, bah alors je sais pas, moi c'est vrai que je connais personne en fait du milieu sur YouTube,
Et je connais pas non plus, hein. J'ai l'impression que c'est rapide, mais
donc je sais qu'il y a des personnes, je sais qu'il y a des personnes qui ont posté à 2 3 vidéos et qui ont cartonné parce que voilà, c'était un contenu particulier, c'est un contenu qui fait le buzz, etc. Et c'est vrai que je me dis qu'il y a des personnes qui sont sur YouTube et qui n'ont jamais décollé. Donc parfois je me dis c'est ouf, parfois je me dis j'aurais pu faire mieux. Voilà, il y a les deux.
Et quel conseil tu te donnes à une personne qui aimerait bien faire comme toi, peut-être qui s'intéresse à la cosmétique, qui aimerait bien en parler, faire du contenu, YouTube ou peu importe. Quel conseil tu donnerais à cette personne pour qu'elle progresse?
Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Alors, le premier conseil, c'est bien évidemment de se lancer. Le deuxième conseil, c'est de trouver quelque chose de différent de ce que font les autres, parce que sinon, tu as très peu de chances de marcher. Moi, ce qui m'a en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là, c'est parce que moi, je parle de la science au niveau des cosmétiques et que c'est quelque chose en France qu'on ne voyait pas ou qu'on ne voyait très très peu. On avait juste certaines personnes qui parlaient de leur ressenti vis-à-vis d'un certain produit cosmétique et il n'y avait personne derrière qui expliquait c'était quoi ces ingrédients, comment fonctionnait le produit, etc., les études qu'il y avait derrière, voilà. Donc moi, je suis quand même arrivée sur un secteur qui n'était pas forcément développée sur le YouTube français, qui était pas mal développée sur YouTube anglais, mais pas sur YouTube français. Donc voilà, il faudrait se trouver, il faut se trouver pour réussir quelque chose qui est pas, où il n'y a pas beaucoup de personnes qui font la même chose que toi.
Et la différence entre un ou une bonne youtubeuse cosmétique et un ou une mauvaise youtubeuse ou créatrice de contenu cosmétique, c'est quoi au-delà de la différenciation? Est-ce qu'il y a d'autres trucs?
En fait, je pense qu'on cible y a les différents youtubeurs skincare en France, on cible pas forcément les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont juste essayer de chercher le plus d'avis possible sur un produit, donc avoir les retours de personnes en disant bon ben là la texture j'ai pas du tout aimé, j'ai pas vu d'efficacité sur ma peau, ou alors au contraire j'ai adoré parce que le sensoriel c'est quelque chose d'innovant, etc. Donc il y a ce type de personnes là, et il y a le type de personnes qui sont plutôt sur ma chaîne YouTube et qui vont essayer de savoir et de comprendre en fait comment le produit a été formulé et ce qu'il va faire concrètement sur la peau. Donc je pense que c'est plutôt, il n'y a pas forcément de mauvais et de bons, mais il y a une clientèle différente.
Ouais, il y a plus du divertissement peut-être et l'éducation, on va dire. Tu fais peut-être plus de l'éducation que du divertissement, même si c'est un peu des deux. Et est-ce que n'importe qui peut se lancer là-dedans? Dans le sens, est-ce que tu penses que n'importe qui peut se lancer dans la cosmétique éducationnelle, ou est-ce que tu penses qu'il faut que la personne ait quand même des bases et un diplôme là-dedans avant de pouvoir parler du sujet? Parce qu'on a vraiment de tout qui parle sur YouTube, donc quel est ton avis sur ça?
Ben, je pense que les personnes qui sont autodidactes n'auront aucun souci à apprendre d'eux-mêmes et à, après, du coup, en parler sur YouTube éventuellement. Mais parce que moi, personnellement, hein, que je le répète, mais j'ai fait une école de chimie et physique absolument pas spécialisée en cosmétique. Donc, bien évidemment que la formulation cosmétique, c'est de la chimie. Donc, j'ai quand même mes bases qui me servent. Mais là, ce que je fais à l'heure actuelle sur YouTube, donc la vulgarisation scientifique, la recherche bibliographique, la recherche d'études cliniques, etc., et vulgarisée sur ma chaîne, c'est typiquement quelque chose que j'ai appris à faire au fil du développement de ma chaîne YouTube. Ce n'était absolument pas des compétences que j'avais. Donc, si une personne est autodidacte et vraiment motivée à faire ça, elle peut réussir.
Et tu dis que donc, tu cherches des études scientifiques, c'est vrai que tu sources en général ce que tu racontes. Donc, aussi, ça, je le dis à toutes les personnes qui m'écoutent, que en général, mon conseil, c'est de regarder quand même les sources, de voir si au moins la personne prend le temps de mettre des sources pour vérifier quand même ce qu'elle raconte. Parce que bah, moi, si je vois une vidéo de toi sur YouTube, je ne te fais pas forcément confiance. La confiance va se créer avec tes sources et ce que tu mets en description, quelque part. Donc, tu vas chercher ces sources. Mais le problème, c'est que quand on lit un article scientifique, c'est vraiment difficilement compréhensible. Toi, tu vas le... J'ai oublié le terme. Tu vas le rendre digeste pour tout le monde. Le vulgariser. Voilà, le vulgariser pour tout le monde. Est-ce que parfois, tu n'as pas l'impression de vulgariser tellement que tu ne dis plus vraiment la vérité de ce qui est écrit sur l'article? Est-ce que ça t'arrive, ça? Est-ce qu'il y a une limite que tu ne veux pas franchir?
Généralement, alors c'est vrai qu'il y a des fois, je vulgarise beaucoup parce que forcément, tu n'as pas le choix. Puisque si tu fais un contenu qui doit être disponible et compréhensible pour tous, y compris des adolescents, tu es obligé de vulgariser au maximum. Mais généralement, non, je m'empêche de trop vulgariser et je mets quand même, je reste sur des choses concrètes et que ça soit quand même représentatif de l'article en question.
Et autre chose aussi par rapport au... C'est un tout autre sujet, tu disais que tu recevais des marques, des produits pour les mettre en avant. Et il y a un sujet, je pense, qui va venir ou qui est déjà là, c'est qu'il y a toutes ces personnes qui créent du contenu, qui reçoivent beaucoup, beaucoup de produits un peu de partout dans le monde. Ça pose des questions environnementales. Est-ce que toi, tu t'es posé cette question-là ou non?
Ouais, il y a des semaines, où je reçois beaucoup de colis. Ouais, je me la pose clairement. Surtout que, en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, je peux très bien demander à la marque, ou alors la marque me demande mon accord pour m'envoyer un produit et je dis oui ou non, tout simplement, parce que si ça ne m'intéresse pas, aucune raison de m'envoyer ce produit-là. Parfois, je suis tout simplement, en fait, dans ce qu'on appelle les listes PR. Et à chaque lancement de nouveaux produits, ils vont m'envoyer un produit cosmétique dans l'espoir que après j'en parle sur mes réseaux sociaux. Donc oui, je me suis il y a des semaines où par exemple, je pense à novembre-décembre quand c'est la folie avec le Black Friday, Noël, etc. Là, je peux recevoir des colis, un colis par jour, voire deux colis par jour. Et là, oui, tu te dis, moi en plus qui suis basée à Hong Kong, le colis vient quand même de France. Généralement, parfois ils demandent aux magasins en Asie de me les envoyer, mais bon, parfois ça vient de France. Et là, ouais, clairement, je me demande, je me dis, ah ouais, quand même, ça fait pas mal de cartons, ça fait pas mal de colis, et je suis que, entre guillemets, une petite influenceuse. Je suis absolument pas quelqu'un avec des millions d'abonnés, etc. Donc je me dis, il y a des personnes, elles doivent recevoir un nombre de colis qui doit être hallucinant.
Ouais, c'est incroyable. Des fois, sur Instagram, tu vois, tu sais, ils mettent en story ou quoi ce qu'ils reçoivent et tu te dis, mais c'est ça tous les jours, ça n'a plus aucun sens. Enfin, au-delà, il y a la question environnementale, il y a la question de la surconsommation. Après, je ne
Ouais.
parle pas trop de ces sujets-là dans le podcast, mais j'ai pas forcément un avis. Mais forcément, comme tout le monde, je me dis, bah, faut peut-être limiter ça le plus possible, autant qu'on puisse. Ouais, donc c'est une vraie question. Et ouais, j'imagine qu'il n'y a pas de solution pour ça, non?
En fait, il n'y a pas vraiment de solution à l'heure actuelle et les gens qui sont sur les réseaux sociaux vont avoir envie de ces produits gratuits. Les marques vont avoir envie d'envoyer ces produits puisque, mine de rien, ça leur coûte pas grand-chose, mais derrière, par contre, une retombée pour eux. Donc, eux, elles ont tout à gagner à envoyer énormément de produits à énormément de personnes puisque, niveau business, c'est un business plan qui fonctionne très, 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 très bien. Donc, en fait, ça risque pas d'avancer, sauf si les marques décident d'arrêter d'envoyer ces produits gratuits et d'envoyer des produits uniquement sous réserve de partenariats payés directement.
Ouais. Et toi, tu travailles comment avec avec les marques partenaires? La plus grosse source de ton revenu, c'est les partenariats ou c'est quelque chose d'autre?
Alors, en ce moment, je dirais que c'est un peu moitié-moitié. Ça va être YouTube. Tout est un petit peu divisé en trois en ce moment. Trois parts égales, YouTube, les partenariats et également le consulting. Puisque c'est vrai que j'y ai pas du tout parlé,
Ah
mais
oui,
je fais également un petit peu de
différent.
consulting.
Et là, t'es connu grâce à ton contenu ou c'est toi qui vas toquer à la porte des entreprises?
Non, c'est mon contenu qui me permet de recevoir des demandes. Et c'est ça que j'adore, hein. C'est que les réseaux sociaux, en fait, c'est typiquement ma vitrine de ce que je peux faire, de mes connaissances. Et puis par derrière, il y a certaines personnes qui sont en train de créer une marque cosmétique ou certaines marques directement qui ont envie de demander mon avis, qui ont besoin d'aide pour le développement d'un produit cosmétique. Et c'est là que je vais intervenir.
Wow, je me dis que c'est ce qui te plaît le plus parmi les trois. Enfin, YouTube, parce que YouTube
Approche
dépend
de
quand même d'un algorithme, donc c'est chaud.
ouais.
Le consulting, tu peux vraiment, c'est tes compétences, ton savoir-faire qui parlent.
C'est ce qui se rapproche le plus de ce que je faisais aussi, de mon métier de base. Et puis, effectivement, c'est ce qui me permet d'être indépendante, puisque demain, si Instagram ou YouTube, ça ferme, voilà, il faut que j'ai quelque chose derrière, une autre source de revenus.
Ouais. Et c'est quoi ta vision pour l'avenir de ton métier, de ce que tu fais, de comment tu vas avoir des sources de revenus. Est-ce que tu as un plan pour l'avenir ou tu continues comme ça et on verra?
Alors oui et non, je continue un peu comme ça et puis on verra, mais je fais en sorte quand même d'avoir des sources de revenus en dehors des réseaux sociaux pour justement me rester indépendante et me permettre un jour, si j'ai envie d'arrêter YouTube parce que ça me plaît plus, parce que j'en sais rien, pour X raisons, j'ai plus envie de faire ça, ou parce que les réseaux sociaux, c'est tout simplement devenu trop dur parce que c'est pas tout beau les réseaux sociaux hein, parfois. Voilà, il faut que je puisse retomber sur mes pattes hein, et que j'ai des revenus ailleurs. Donc je développe de plus en plus cette partie consulting forcément.
Et recréer ta marque, par exemple?
Alors, créer ma marque, si tu m'avais posé la question quand j'étais au lycée, je t'aurais dit ouais, c'est mon
C'est
rêve,
trop cool.
carrément. À l'heure actuelle, ça l'est plus vraiment dans le sens où c'est quelque chose qui demande énormément d'investissement, mais là on parle sur une somme d'argent colossale. Donc vraiment la demander des prêts à la banque, etc. Donc c'est un projet énorme et énormément de temps aussi, énormément de ressources. Bien évidemment, moi de par mon passé, j'aurais forcément des contacts au niveau des laboratoires, etc. Donc je pourrais me démerder. Mais est-ce que c'est quelque chose qui me plairait réellement? J'en suis plus sûre. À l'inverse, là, la partie consulting, ça me permet d'être détachée des marques, de travailler pour plusieurs marques, de travailler sur plusieurs types de produits et d'être vraiment détachée, de ne pas avoir ce stress de gestion d'entreprise.
Et tu dois rester à Hong Kong sur l'avenir ou pas?
Alors non, là on est en train d'envisager de partir de Hong Kong, pas parce qu'on n'est plus bien ici, mais tout simplement parce que là les restrictions au niveau du virus et la politique à Hong Kong, c'est devenu un petit peu plus compliqué. Donc ouais, on est en train d'envisager là de partir.
C'est pour rentrer en France ou vous avez d'autres idées
Non, voilà, nous on est un petit peu, comme tu as pu le voir, hein, je bouge beaucoup, je suis pas forcément très stable. Donc non, ça sera là où mon copain il aura une opportunité et là où on aura envie d'aller. Et moi en fait, je me suis le but aussi avec tout ce que j'ai créé, c'était que je sois mobile, que je puisse travailler de n'importe où. C'était vraiment ce que j'avais envie de faire parce que quand je suis partie à Hong Kong, je savais pertinemment qu'on allait rester quelques années à Hong Kong et que très certainement on allait partir ailleurs et je voulais pas forcément avoir un métier où je travaille pour quelqu'un, il faut que j'aille dans les bureaux, etc. Je voulais vraiment être mobile, être nomade, comme on dit. Et c'est ça qui me plaît le plus aujourd'hui, hein, c'est que je suis indépendante, mais non, en plus d'être indépendante, je suis nomade.
Ouais,
Donc, je peux
tu peux
aller
bouger
là où
d'où
je
tu veux.
veux.
C'est quoi, t'as quand même des horaires précis, tu essaies de respecter, je sais pas, du 9h-5h, ou c'est ouais, comment tu t'organises?
Ouais, j'ai pas. Enfin, je fais un petit peu en fonction. Hein, si jamais j'ai pas envie de travailler, ça arrive rarement. Mais si j'ai pas envie de travailler, j'ai pas travaillé. Mais oui, généralement, je travaille toutes les journées comme si je travaillais en entreprise. Hein, donc, je commence à 8h30, 9h, et puis après, je m'arrête dans la journée en fonction de ce que je dois faire dans l'après-midi. Ça peut être à 16h, comme ça peut être à 19h, 20h, quoi.
Ouais, mais tu travailles beaucoup avec la France, non? Donc, t'as quand même les horaires décalés. Genre là, par exemple, nous, il est quelle heure? Il est midi en Canada, en France. Midi en France. Chez toi, il doit être là en fin de so doit être la soirée, là, 20, je sais pas, 20h,
Ouais, il va
21h?
être 19h.
19h? Donc, est-ce que tu t'adaptes pas du tout aux horaires français? Ça te dérange, c'est pas dérangeant?
Non, ça ne me dérange pas parce que tout ce qui est contenu, création de contenu sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun souci. Et pour tout ce qui est visio avec la France, par exemple, eh bien, je les mets l'après-midi et puis ça se passe bien.
Ouais, tranquille en fait. Ok, parfait.
Voilà.
Ben, je te conseille d'aller au Canada pour ton prochain pays. Moi, on vit là-bas, nous, et c'est trop cool. Si vous pouvez venir, c'est génial. Mais non, je sais pas si ton copain travaille dans la cosmétique, mais j'imagine qu'il faut des pays aussi, peut-être où il y a de la cosmétique, je sais pas. Et en France, il y a la Cosmetic Valley, non? C'est pas ça? Dans le centre?
C'est tout ce qui est Paris, Normandie, Orléans, tout ce secteur-là, tout le
Ok.
nord, nord-ouest.
C'est cours de géographie, ça, du lycée. Je me rappelle.
Vas-y.
Bref. Et je finis toujours mes épisodes par deux questions. La première question, c'est quelles sont tes trois valeurs de vie, ou quatre, tes valeurs de vie, le nombre que tu veux.
Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire? Alors, il y aurait l'ouverture d'esprit et la communication et l'écoute. C'est les trois valeurs qui sont complémentaires, je trouve. Et en fait, c'est ma valeur de vie parce que je trouve que ce sont des valeurs qui sont en chute libre. J'ai l'impression que les gens sont de moins en moins à l'écoute et ne savent plus communiquer, clairement. Alors, c'est certainement de par mon métier, hein, puisque comme je suis sur les réseaux sociaux, je peux faire face à des commentaires, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que les personnes ne savent plus réellement parler, ne savent plus communiquer entre elles, ne savent plus dire les choses d'une façon, sont toujours agressives ou sont campées sur leur position. Et c'est là où l'ouverture d'esprit est, je trouve, important. Et c'est aussi certainement du fait que je suis partie vivre à l'étranger. Hein, forcément, quand tu pars vivre dans un autre pays et en plus dans une nouvelle culture, hein, parce que je ne suis pas allée dans un pays à côté de la France, hein, je suis vraiment partie à l'autre bout. Je pense que c'est une valeur qui devient de plus en plus importante pour moi. Donc voilà, donc ouverture d'esprit, communication et écoute, puisque pareil, je trouve ça important d'écouter les personnes. Par exemple, si moi je prends l'exemple de la cosmétique, moi j'ai une certaine vision de la cosmétique, clairement. Et si je rencontre une personne qui n'a pas du tout la même vision que moi, ben, je ne vais pas me braquer, je vais l'écouter, je vais essayer de comprendre pourquoi. Et encore une fois, je vais communiquer avec elle de façon intelligemment. Voilà. Et je trouve que ce sont des valeurs qui se perdent un peu en ce moment.
Surtout, j'imagine que sur les réseaux sociaux, tu dois recevoir des jolis commentaires, des fois pas très sympathiques. Tu peux bloquer les gens ou pas? On peut bloquer les gens sur YouTube, les commentaires,
Bah,
non?
sur YouTube, non. Sur
Ah
Instagram,
mince.
ouais.
Ah cool.
Ouais, voilà, c'est la fonctionnalité qui manque à YouTube.
Mais comment on peut avoir un hater? Enfin, un hater, est-ce que toi, t'es plutôt rationnel? Tu expliques comment ça marche, donc quel hater peut
Mais,
arriver?
alors, bah, pour être honnête, j'en ai pas beaucoup, donc j'ai quand même de la chance sur ce côté-là. J'ai beaucoup de commentaires positifs. Les commentaires négatifs que je vais avoir, ça va être, bah, je pense, clairement des adolescents, des gens qui sont chiés dans leur vie, hein, clairement. Des commentaires sur le physique ou des choses comme ça qui n'ont
Ah, j'avais
rien
pensé
à
à
voir
ça.
avec la vidéo. Voilà, tu vois quoi.
Ouais, ok. Et la dernière question, c'est quel conseil tu te donnes à toi-même pour t'améliorer, pour progresser dans le futur?
Alors, quel conseil je me donne à moi-même? Alors, je trouve ça important en fait, d'avoir un équilibre dans sa vie. Et quand je parle d'un équilibre, je parle d'un équilibre physique, un équilibre mental. Puisque, par exemple, moi, je suis entrepreneur. Donc, en fait, je n'ai pas d'horaire. Je peux travailler non-stop. Mais il faut trouver justement cet équilibre et ne pas travailler non-stop parce que sinon tu vas être en dépression assez sérieuse et tu dois trouver un équilibre entre ta vie professionnelle, ta vie personnelle et ça peut être assez compliqué. Donc quand tu travailles à la maison notamment, de plus avoir cette différence de je vais au travail et je suis à la maison et donc tu dois trouver un équilibre qui peut être très compliqué à trouver au début puisque moi au début, ben, tu auras envie de travailler en fait les samedis et les dimanches quand tu es auto-entrepreneur et parfois tu n'auras pas le choix, mais tu ne sauras pas vraiment quand t'arrêter. Et il faut s'arrêter, il faut se forcer à arrêter pour trouver cet équilibre parce que sinon tu vas perdre la tête. Et puis voilà, et puis pour ça, moi j'ai pas mal d'autres choses dans la vie, dont notamment le sport et je me renseigne aussi sur la méditation pour vraiment se recentrer sur soi-même. Plutôt que de s'éparpiller, de faire plein de choses qui peuvent t'amener à être submergé derrière, quoi.
Très bien. Mais merci beaucoup Bérangère pour cette, je sais pas, 1 heure, 7 heures, ouais, 7 heures ensemble. C'était,
Ouais.
j'ai appris plein de choses sur la cosmétique, j'y connaissais rien, même si j'ai des vidéos en fond parfois sur les vitamines C, la vitamine C, etc. Là, j'ai appris encore plus de choses aujourd'hui. Donc merci beaucoup.
Merci à toi.
Ce podcast étant une histoire commune entre ses auditeurs et ses invités, je voulais vous remercier pour votre écoute. Aussi, vos notes, commentaires ou encore le bouche à oreille sont au cœur de la réussite de cette aventure. N'hésitez donc pas à partager votre avis.